Réforme. Développement. Impact. Centre Zoé.
Comment faire de vos résolutions des réalités. Et on a commencé à regarder ensemble des choses pour que cette fois-ci, peut-être cette année, pourquoi pas, puisqu'on est encore en début d'année, et plus généralement qu'à partir de maintenant, eh bien, ce que nous, les résolutions que nous prenions, qu'elles deviennent des réalités. Que cette fois-ci, ça soit la bonne. Peut-être que plusieurs fois, certains d'entre nous, on a pris certaines résolutions ou décisions et qui n'ont abouti finalement nulle part. Mais on est en train d'étudier, de regarder ensemble avec la parole de Dieu des choses, des clés, des indications qui vont nous aider à passer de la résolution à la réalisation, de faire que nos résolutions deviennent des réalités. Et donc on avait vu un premier message qui s'intitulait « Se fortifier dans ses résolutions ». On avait parlé de l'histoire de Néhémie, on avait vu que lorsque Néhémie a partagé cette vision qu'il avait suite à la honte quelque part de son peuple qui revenait de captivité, et puis la ville de Jérusalem et la muraille étaient détruites, et il avait cette vision et cette mission finalement de Dieu de rebâtir la muraille. Il l'a communiqué avec son peuple, et puis ils lui ont répondu en disant « Levons-nous et bâtissons ». Et la parole dit qu'ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et donc on avait vu ensemble qu'il est bon de se fortifier dans ses résolutions. Et que peu importe ce qu'on peut rencontrer après comme situation, ils ont rencontré de la moquerie, ils ont rencontré des gens qui sont venus les défier, ils ont eu à anticiper des attaques de l'ennemi, etc. Mais ils ont tenu bon, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont bâti la muraille en 52 jours. Et ça a été vraiment un sujet de gloire aussi pour Dieu et vis-à-vis même des nations qui étaient autour d'eux. Et puis, la dernière fois, on a parlé d'un thème intéressant et motivant pour tout le monde. Et je crois que ça, enfin moi personnellement, ça m'a vraiment fait du bien encore. Et pendant toute la semaine, ça m'a accompagné. Et je vous avais montré à travers la parole de Dieu que vous avez l'onction. Vous avez l'onction. Et on a vu dans les Écritures, et particulièrement dans la vie de David, et aujourd'hui on va revenir un peu à David, parce que j'ai vu d'autres choses encore en passant, et on a vu que Dieu nous donne l'onction. Et de la même façon que Dieu a envoyé le prophète vers David pour choisir donc, ce prochain roi en Israël, on a parlé du choix qui s'était fait, non pas selon des critères humains, mais selon le choix de Dieu, et que finalement celui qui n'avait même pas été présenté au casting, entre guillemets, si on peut dire, eh bien c'est celui-là que Dieu avait choisi, et le prophète l'a fait appeler, et puis ce qui s'est passé quand il l'a rencontré, il lui a versé de l'huile sur lui, qui était un signe de la capacité, de l'équipement divin pour la mission à laquelle il était appelé. Et puis ce qui est intéressant et bon pour nous, c'est que Jésus a promis que le Père enverrait le Saint-Esprit, et que nous recevrions une puissance, et qu'alors nous serions ses témoins. Et la bonne nouvelle, et on l'a vu ensemble, c'est que cette puissance de Dieu, c'est pas juste une histoire d'église, et c'est même pas juste une histoire spirituelle. Cette puissance que Dieu nous envoie par le Saint-Esprit nous rend capables et nous qualifie pour accomplir notre destinée, pour réussir notre vie. Et ça sur le plan spirituel, mais aussi sur les autres plans de notre existence. Parce que la parole déclare, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. En fait, il est dit, vous recevrez une capacité, vous recevrez la puissance qui est la force, la capacité, l'habileté à faire des choses. Et le Saint-Esprit nous équipe, oui, pour que bien sûr nous puissions expérimenter la présence de Dieu, que nous puissions avoir une vie spirituelle épanouie, mais le Saint-Esprit et l'onction de Dieu sur notre vie nous rend aussi capables de faire face à toutes les situations que nous pouvons rencontrer, et l'onction de Dieu dans notre vie est ce qui va nous rendre capables aussi de passer de la résolution à la réalisation. Si nos résolutions sont fondées sur une parole de Dieu, si nos résolutions sont conformes à la pensée de Dieu, eh bien la puissance qui accompagne la parole de Dieu est disponible pour que nous allions jusqu'à la réalisation. Et donc vous avez l'onction. Et aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus loin et peut-être aussi parce qu'il le faut, équilibrer cette partie-là. Et si on veut un titre peut-être pour aujourd'hui, on pourrait mettre « Soyez excellent ». Et en fait, ce que je voudrais faire toujours à partir de David, donc on va aller dans 1 Samuel 16, c'est vous montrer que, oui, David avait reçu l'onction, et on a bien sûr vu beaucoup d'autres choses, donc si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre, vous pouvez retrouver ça en téléchargement gratuitement sur Internet, pour compléter, parce que je ne peux pas tout résumer, sinon on ne va pas avancer. Mais en tout cas, on a vu différentes choses et différents enseignements. Et même s'il a reçu l'onction, il est resté à ce qu'il faisait auparavant. Il continuait de s'occuper de son troupeau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette onction, eh bien, il faisait les choses avec une dimension différente. Et les Écritures nous montrent que lorsqu'il allait se trouver face à Goliath, un de ses grands défis avant de devenir roi en Israël, eh bien il était assuré et affermi dans sa foi, parce que alors même qu'il gardait seulement les brebis, il avait commencé à goûter et à opérer avec cette onction, cette capacité qu'il avait reçue de Dieu, par exemple pour combattre des bêtes féroces qui venaient contre son troupeau. Et ici on va regarder encore certaines choses, parce que même si David avait l'onction de Dieu, ce n'est pas que l'onction entre guillemets qui répondra à tout et qui résoudra tout. Dieu nous donne son onction. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, et les Écritures nous montrent que nous avons reçu l'onction de celui qui est saint, et que l'onction de Dieu est disponible et qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc vous avez tout ce qu'il faut. C'est déjà là, c'est disponible, mais il va y avoir aussi, et ça va être un peu l'objet de notre échange aujourd'hui, une autre part à faire, et il y a un certain travail. Parce que même si vous avez l'onction, sans travail, entre guillemets, de votre part, sans votre participation, sans vous mettre en action, cette onction-là ne pourra pas être activée et ne pourra pas vous amener de la réalisation, de la résolution, pardon, à la réalisation. Hein, donc vous avez l'onction, vous avez la capacité, la puissance de Dieu est là, sa parole est efficace, mais on a aussi une part à faire, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La responsabilité d'être excellent et aussi de développer les dons et les talents que Dieu nous donne. Vous savez, Dieu nous fait des dons, Dieu nous donne des capacités, mais il nous les donne, mais nous devons les développer. Et j'y pensais encore tout à l'heure parce qu'on était en train de monter un meuble à la maison et ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, ça peut être une image évidemment, pas une image parfaite comme souvent, mais vous savez, quand vous achetez parfois un meuble ou quand vous avez certains objets que vous procurez, dans le carton il y a le meuble, mais il est en pièces détachées. Donc il est là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a toutes les pièces, il y a peut-être un plan de montage, il y a tout ce qu'il faut, il y a les connecteurs, les vis et tout ça. Mais dans l'état, il est évident que le meuble, il n'est pas encore tout à fait utilisable. Il ne va pas nous servir à grand-chose aussi longtemps que ce sont des pièces détachées dans un carton. Et d'une certaine manière, quand Dieu nous fait un don, quand Dieu nous donne certaines capacités, quand Dieu nous transmet quelque chose, eh bien, très souvent, c'est comme s'il nous envoyait un colis et nous dit « Voilà, tu as le kit ». Mais notre part, ça va être de monter ensemble les différentes pièces pour que ce que Dieu nous a donné puisse effectivement se développer, servir à quelque chose et être utile à sa gloire. Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. Et je voudrais vraiment à travers ça aussi nous encourager à être des personnes responsables. Comme je le dis souvent, mais je le redis encore, nous avons une responsabilité. Oui, Dieu a des choses à faire, mais vous savez, Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Et nous avons notre part pour ce que Dieu a accompli pour nous puisse devenir une réalité. Donc 1 Samuel 16, on va revenir à David avant que je ne m'élance beaucoup plus loin. 1 Samuel 16, c'est déjà là qu'on avait commencé la dernière fois, on avait vu donc le prophète vient vers lui, va lui donner l'onction, etc. Et puis il continue, David, il revient littéralement, on peut dire, à ses moutons. Puis on va reprendre au verset 13, 1 Samuel 16, 13. Donc Samuel prend la corne d'huile et loin au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Puis Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, le précédent roi, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc c'est juste une petite parenthèse ici, un mauvais esprit venant de l'Éternel. Dieu n'envoie pas de mauvais esprit. D'accord ? Et littéralement, enfin, c'est la traduction qui n'est pas forcément extraordinaire, il est plus juste de dire que l'Éternel permit qu'un mauvais esprit tourmente Saül. Hein, on sait que Saül, si vous étudiez son histoire à la fin de sa vie et pendant son règne, il s'est écarté des voies de Dieu, il a énormément désobéi. Et nous savons que la désobéissance ou le fait de s'éloigner de Dieu, eh bien, va nous priver de la protection de Dieu. Et à ce moment-là, c'est comme si Dieu permettait, entre guillemets, à ce que certaines choses puissent même tourmenter ceux qui s'en écartent, parce qu'il garantit la protection, l'abondance, la paix, la vie, la joie et tout ce qui va avec à ceux qui marchent avec lui. Mais quand nous nous écartons, eh bien, nous nous privons de toutes ces choses-là. Et donc Saül, par son écartement, par son entêtement, eh bien, s'était exposé. Et donc un esprit était en train de l'agiter ou de le troubler. Verset 15, les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Donc même les gens qui étaient autour de lui se sont rendus compte qu'il n'était pas dans son assiette. Hein. Il a dit non, qu'il y a un esprit là qui doit t'agiter. Je pense qu'il n'était pas bien, le Saül. Et alors verset 16, il est dit que notre Seigneur parle et tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront quelqu'un qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc quelqu'un qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Et Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Et c'est juste après, au chapitre 17, qu'on a enfin, entre guillemets, cette histoire de David face à Goliath, qui est riche en enseignements. Mais alors que je regardais tout ça, je me suis arrêté sur cette partie-là et j'ai constaté quelque chose d'intéressant. C'est que David avait reçu l'onction pour être le prochain roi en Israël. Et David avait développé des capacités et des habiletés dans ce qu'il faisait. Mais remarquez que lorsque Saül était tourmenté et qu'on avait besoin de quelqu'un qui jouerait bien de la harpe pour le soulager, un des serviteurs, tout d'un coup, s'est rappelé et dit, « Mais il y a un des fils d'Isaïe, en l'occurrence David, même s'il n'est pas cité, qui sait jouer de la harpe et qui donc pourrait t'aider. » Et ces gens-là ne savaient pas encore que David était loin de Dieu. Et remarquez que lorsqu'ils font mention de lui, ils lui disent, « Il sait jouer de la harpe, c'est un homme fort et vaillant, un guerrier, qui parle bien, qui a de belles figures, et, en dernier lieu, pourtant c'est ce qu'il y a de plus important, l'Éternel est avec lui. » Et en fait, ici, David a eu accès à Saül, David a eu accès à cette position élevée qui allait l'introduire près du roi, non pas à cause de l'onction directement, mais à cause d'une capacité, d'un don et d'un talent qu'il avait développé à tel point que sur certainement les milliers de joueurs de harpe qu'il devait y avoir dans tout le pays, quand on a eu besoin d'un excellent joueur de harpe, on est parti chercher David. Et ce que je voudrais à travers ça vous montrer, et bien sûr on va voir d'autres écritures qui soulignent ça, mais c'est que oui, nous avons l'onction du Saint-Esprit, et c'est excellent, et ça nous qualifie, ça nous aide, ça nous permet d'opérer au quotidien, mais ça ne nous dispense pas de développer les dons, les talents et les capacités que nous avons reçus. Ça ne nous dispense pas de travailler, ça ne nous dispense pas de chercher à être excellent dans tout ce que nous faisons. David a eu accès à Saül parce qu'il était excellent dans ce qu'il faisait. David avait tellement développé son don, son talent et sa capacité à jouer de la harpe que c'est lui qui a été appelé auprès de Saül. Et il a dit en même temps qu'il était aussi un vaillant guerrier, etc. Mais si David n'avait été qu'un vaillant guerrier, il n'aurait peut-être pas été appelé auprès de Saül à ce moment-là, parce qu'on avait besoin d'un joueur de harpe. Et si David n'avait été qu'un joueur de harpe, il n'aurait peut-être pas pu vaincre Goliath, parce qu'on n'aurait pas... C'est pas avec de la musique qu'il aurait vaincu Goliath. Mais ici, on voit une fois encore que David continuait de faire la bonne chose. Alors même qu'il avait l'onction pour être roi, il était en train de s'occuper de ses brebis tranquillement. Et puis il avait développé des talents, des capacités, dont celui de jouer de la musique. Et c'est parfois quand on voit quelqu'un, on peut parfois se dire « Mais lui, il est vraiment doué pour telle et telle chose. » Mais très souvent, nous, on ne voit pas le travail qu'il y a eu derrière. Parfois, vous voyez quelqu'un qui, soit qui s'exprime bien, soit qui joue très bien la musique, soit même dans des choses naturelles de la vie. Quelqu'un qui est doué pour les affaires, ou quelqu'un qui donne l'impression d'avoir une intelligence supérieure. Et certes, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, mais parce qu'ils ont développé leur intelligence, et qui sont prompts et rapides à résoudre les problèmes, ou à trouver une organisation, ou à vous transmettre quelque chose, vous dites, mais lui, il est vraiment doué, ou elle est vraiment douée pour ça. Et parfois, on peut même être à la limite d'envier quelqu'un en disant « Mais j'aimerais bien être aussi vif ou aussi facilement dans ce domaine-là agir que telle personne. » Mais quand on envie juste la capacité ou le don, il faut savoir que derrière, il y a aussi tout un travail. Et si vous cherchez un peu ou si vous vous entretenez avec certaines personnes dont vous estimez qu'elles sont douées dans un domaine, vous allez vous rendre compte qu'elles ont aussi travaillé. Elles ont travaillé. Et même si Dieu nous donne l'onction, et même s'il nous donne des capacités, des talents, et il nous a donné tout ce qu'il faut pour réaliser et accomplir notre vie, et finalement Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nos résolutions puissent se réaliser, mais ça ne se fera pas sans un travail de notre part. Et nous sommes appelés à travailler. J'ai envie de vous exhorter, de vous inviter à être excellent dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous voulez que vos résolutions deviennent des réalités, soyez excellent. Faites les choses de votre mieux. Et même quand vous prenez une résolution, ne le faites pas juste à la légère, comme disant « Oui, ben j'ai dit que cette année, Par exemple, j'irai faire telle chose chaque jour. Donc chaque jour, vous prenez vos minutes pour faire ce que vous avez dit que vous feriez, mais vous le faites juste parce que vous aviez dit que vous le feriez. Parce que ça, ça ne vous amènera pas très loin et vous allez très vite abandonner. Mais si vous faites les choses avec excellence, avec implication, en voulant le faire le mieux possible, ça va aussi générer une nouvelle motivation pour vous. Et alors même si au départ vous vous forcez un petit peu, à la longue vous y prenez du plaisir, vous y prenez goût parce que vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de faire prend forme, se développe et vous irez de la résolution à la réalisation. Et pour que le dépôt que Dieu a mis en chacun de nous puisse se manifester, eh bien, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de rechercher à être excellent, de développer ce que nous avons reçu. On ne sait pas combien de temps David a travaillé pour devenir finalement le meilleur joueur de harpe dans tout Israël. On ne sait pas combien de temps David a passé, mais quand on l'a appelé, il était prêt. Ce n'est pas au moment où on cherchait un musicien que David a dû dire « Oula, je vais vite prendre des cours de musique et je vais passer jour et nuit à réviser puis à m'entraîner pour qu'en arrivant auprès du roi, je sois prêt. » David était prêt. Quand on a eu besoin d'un musicien, il était prêt. Peut-être qu'avant, personne même ne se rendait compte que David était avec sa harpe, peut-être même dans le champ où il gardait ses brebis et puis qu'il jouait peut-être que pour lui-même. Mais quand on a eu besoin d'un excellent joueur de harpe, on l'a trouvé et on l'a trouvé prêt. Donc si vous développez vos capacités, vos talents, les dons que vous avez reçus, et plus généralement si vous développez vos capacités, tout simplement, est-ce que vous étudiez quelque chose? Est-ce que vous êtes en train de lire un livre constructif en ce moment? Oui, la Bible, d'accord, mais arrêtons d'être trop spirituel. À côté de la Bible, est-ce que vous développez votre intelligence? Est-ce que vous lisez un livre? Est-ce que vous développez votre réflexion? Est-ce que vous suivez des conférences de temps en temps? Est-ce que vous vous éduquez? Est-ce que vous vous instruisez? Est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresse et qui vous passionne? S'il n'y en a pas, j'ai envie de vous dire, trouvez quelque chose, trouvez un point d'intérêt, développez vos connaissances et votre intelligence, parce que Dieu vous a donné une intelligence. Et vous savez, on estime que les gens utilisent en moyenne 10% de leur cerveau. C'est quand même dommage. Et nous qui sommes enfants de Dieu et qui sommes appelés et qui aspirons, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez aussi saisi cette vision qui est la nôtre et qui est plus largement certainement celle de quasiment tous les enfants de Dieu, puisque c'est le message même de Jésus. Mais nous aspirons après la vie et la vie en abondance, mais vous n'allez jamais vous développer ou vous épanouir à moins de faire à un moment donné certains efforts. Et si vous restez simplement assis sur vos acquis en disant ben, « Finalement, comme Jésus veut que j'ai la vie en abondance, si je prie et si j'attends entre guillemets que ça vienne, ça viendra. » Non. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous a donné? Est-ce que vous êtes en train de travailler, de le développer ou pas? Et si ce n'est pas le cas, je vais vraiment vous encourager à le faire. Prenez du temps, non pas comme un devoir ou quelque chose qui va encore vous peser, mais développez-vous. Développez vos capacités, développez vos connaissances et grandissez. Et vous allez voir que ça va être excellent d'une part pour vous, parce que ça élargit vos champs de connaissances, de réflexion et de possibilités d'action. Mais aussi, ça vous donne de vraiment goûter encore davantage aussi à la grandeur de Dieu. Vous savez, plus on apprend des choses et plus on se rend compte que Dieu est grand, que Dieu est illimité. J'imagine que, et l'une des impressions que j'ai eues il y a quelques années maintenant déjà, mais j'ai passé un peu de temps, très peu, mais un peu de temps quand même à l'université. Et vous savez, quand j'arrivais dans ces halls d'université, parfois c'est quand même un peu lugubre, entre guillemets, à certains endroits, mais quand on est là et on me dit, mais ça respire la connaissance. Vous rentrez dans une bibliothèque universitaire, il y a des dizaines et des centaines de livres, où il y a des gens qui sont assis, qui étudient, qui sont en train de feuilleter, qui sont sur leur PC, qui tapent, et puis vous êtes là et vous dites « Waouh, mais il y a tellement de connaissances et de sciences et de sujets à étudier, il y a tellement de choses, et Dieu a une intelligence qui est encore plus grande que tout ça. » Et parce que tout ce que nous pouvons étudier, connaître, c'est juste une partie de toute la connaissance, la sagesse et la science infinie de Dieu. Et vous savez, plus vous apprenez même des choses pratiques ou des choses naturelles, et plus aussi vous goûtez et vous découvrez combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Et puis au-delà de ça, vous vous donnez aussi des occasions d'accéder peut-être à des endroits, à des milieux ou à des personnes auxquelles vous n'auriez pas pu accéder si vous étiez resté juste dans votre... Je ne peux pas vous dire dans votre ignorance, parce que je ne voudrais froisser personne, mais peut-être dans le niveau de connaissance que vous avez aujourd'hui. Et vous savez, peu importe que vous ayez fait des grandes études ou pas, la question n'est pas là. Mais aujourd'hui, on peut, que ce soit avec des livres, que ce soit avec Internet, que ce soit avec tellement de moyens, on a accès plus facilement à beaucoup de connaissances. Et Et l'une des choses que nous négligeons parfois, sinon souvent, et surtout, il faut le dire en tant que chrétien, c'est que nous passons à côté de beaucoup de choses, nous disons, on a la foi, on a Jésus, et puis c'est bien. Mais oui, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Si David n'avait pas développé ici son don musical, il n'aurait pas pu être celui qui allait être choisi pour être auprès de Saül. Et le fait qu'à ce moment-là, il soit auprès de Saül, il se trouvait carrément, on peut dire, au chevet de Saül. Et quand Saül était agité par l'esprit, lui jouait de la musique, Saül se sentait mieux. Et les Écritures nous disent que finalement, David va trouver grâce auprès de Saül et Saül va aimer David. Même si on sait que plus tard, ça va changer. Vous savez, ça... Et si, parfois ceux qui vous applaudissent aujourd'hui sont ceux qui demain vous jettent des tomates, hein, pour ne dire que des tomates, c'est pas des pierres ou autre chose, mais ça c'est encore une autre histoire, mais c'est pas grave. Mais il y a des périodes comme ça, et c'était peut-être pas sa destinée finale, ça n'était pas sa destinée finale. David n'avait pas été loin par Dieu juste pour jouer de la musique pour que Saül se sente mieux. David était loin pour prendre la place de Saül et pour rétablir l'ordre divin dans son pays. Il a été loin pour remporter des victoires, dont celle contre Goliath qui allait le positionner et lui valoir aussi l'intérêt et le respect du peuple tout entier. Mais à ce moment-là, ce qu'il devait faire, c'était être auprès de Saül, et à cause du talent qu'il avait développé, il a pu s'y trouver. Si David n'avait pas pris le temps d'apprendre à jouer d'un instrument, eh bien à ce moment-là, il serait certainement passé à côté de quelque chose. Et donc nous avons besoin de développer ce que Dieu nous a donné. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous a établi chacun d'entre vous et moi pour que nous soyons un sujet de gloire, des témoins. On l'a vu, Dieu nous a donné son esprit qui nous communique une capacité pour que nous soyons ses témoins. Et être témoin de Dieu, vous savez, et je suis en train de toucher à plusieurs sujets dont je ne peux pas développer à chacun en détail, mais être témoin de Dieu, c'est beaucoup plus que juste parler de Jésus, parler de l'Évangile. Être témoin de Christ, être témoin de la vie de Dieu dans ce monde, c'est aussi être excellent dans tout ce que nous entreprenons. C'est aussi que lorsque vous faites quelque chose, vous le faites bien, vous le faites avec excellence. Ça glorifie Dieu. David jouait de la harpe tellement bien qu'on avait entendu parler de lui et qu'on va l'appeler auprès de Saül et qu'on dira « Il joue de la harpe, il est aussi un guerrier, il est aussi beau de figure, il sait parler et l'Éternel est avec lui. » À un moment donné, si vous faites les choses, nous devrions faire les choses tellement bien que nous soyons remarqués, d'abord pour la qualité de ce que nous faisons et qu'ensuite ce soit une occasion, voire une passerelle de dire « Mais Dieu est avec lui. » En disant, mais pour faire ça bien comme ça, il y a quelque chose. Et quand on viendra vous voir en disant, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi excellent dans ce que vous faites? Eh bien, vous pouvez à ce moment-là parler en disant, mais moi, j'ai une espérance, j'ai ma foi, et je sais que j'ai reçu du Créateur des cieux et de la terre ce don et ce talent extraordinaire. Donc, le crédit n'en revient pas à moi, il lui en revient à lui. Mais sans la part de travail qui vous appartient, ça n'arrivera jamais. Et si nous nous contentons, et il faut le dire, et je suis désolé de le dire, mais trop souvent, en tant que chrétien, on se contente de la médiocrité. La médiocrité, c'est pas juste mauvais, la médiocrité, c'est ne pas aller jusqu'où vous pourriez aller. La médiocrité, littéralement, c'est s'arrêter en chemin. Et trop souvent, lorsque nous sommes moyens, on s'en contente, on dit c'est bon, je suis déjà moyen. Je suis déjà à peu près comme tout le monde et je m'arrête là. Mais Dieu ne nous appelle pas à être moyen. Dieu ne vous appelle pas à être moyen. Dieu vous appelle à être le meilleur dans ce que vous faites. Et vous êtes la meilleure personne pour être la meilleure version de vous-même. Et vous pouvez l'être. Vous avez le choix d'être une version limitée, d'être une version moyenne ou d'être la meilleure version. Et personne d'autre que vous ne peut être un meilleur vous, si j'ose dire. Personne d'autre que vous ne peut mieux vivre votre propre vie. Donc même si vous voyez quelqu'un d'autre, donc vous avez l'impression qu'il réussit, qu'il se développe, qu'il a des talents, etc. Eh bien ça, il a ce qu'il faut pour accomplir sa vie, sa destinée. Et c'est très bien pour lui, mais vous, ça ne devrait pas vous amener à l'envie ou au contraire vous résigner. Mais ça devrait vous pousser à vous dire, mais si lui en est là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a certainement travaillé quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Il a certainement travaillé ses dons, ses talents. Il a certainement pris du temps pour étudier des choses en rapport avec ce après quoi il aspirait. Vous avez des gens qui sont excellents, qui sont pointus dans certains domaines, mais ils ont passé des heures, parfois des jours et parfois des nuits à lire des livres, à étudier, à travailler, à écrire, à composer, à faire des thèses et plein de choses comme ça pour être excellents aujourd'hui dans leur domaine. Et moi, je ne suis pas aussi excellent qu'eux dans ce domaine-là, mais je n'ai pas fait non plus tout ce travail-là. Et faire la même chose qu'eux ne serait certainement pas la solution, parce que ça correspond à leur vie, à leur destinée, à leur cheminement et à ce après quoi ils aspirent. Mais pour aller au maximum de ce qui est devant moi et même de ce que Dieu a préparé pour moi, j'ai besoin aussi de travailler. J'ai besoin d'amener à maturité ce que Dieu a mis en moi. Et la parole nous exhorte régulièrement. Parce que même s'il nous a donné ce qu'il faut, c'est ce qu'on a vu la dernière fois et ce dans quoi on a pu renouveler notre foi, être motivé, mais nous devons aussi travailler. Et les Écritures le disent, et je vais juste prendre trois passages que je vous donne dans les Épîtres. Le premier, c'est 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Il est dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, et travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc ici, il est parlé de l'œuvre de Dieu, mais il est parlé de travailler de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Ne faites pas juste ce que vous avez à faire, mais faites-le de mieux en mieux. 1 Thessaloniciens 4, au verset 1er, il est dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Donc là encore une notion de chercher à faire mieux, d'aller de l'avant, aller de progrès en progrès. Et puis cette exhortation de Paul à Timothée aussi, en 1 Timothée 4, verset 5. Pas ça, peut-être 2 Timothée alors, j'ai dû mettre la bonne référence, non plus, à un moment Paul lui dit, on peut peut-être le retrouver en passant, mais Paul lui dit que ses progrès soient évidents pour tous, il dit que tes progrès soient évidents pour tous, donc si quelqu'un trouve, pourrait nous redonner la référence, en tout cas c'est dans les Épîtres à Timothée, donc plusieurs fois dans les Écritures, là j'en ai pris 3, mais on pourrait en trouver d'autres, où on voit combien, et c'est dans le Nouveau Testament et c'est dans les Épîtres, donc c'est pour nous aussi, et ça fait partie de la Nouvelle Alliance, de faire des progrès, de travailler de mieux en mieux. Donc par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, et pour tenir les résolutions que vous avez prises, qu'est-ce que vous avez mis en place? Avez-vous un plan d'action? Est-ce que vous travaillez à quelque chose? Je peux me répondre, je vous pose la question et posez-la à vous-même. Vous savez, oui, nous pouvons prier, oui, nous pouvons bâtir notre foi, oui, nous avons reçu l'onction, mais est-ce que vous travaillez réellement à ce que vos résolutions deviennent des réalités? Parce que oui, il y a l'onction, mais il y a aussi le travail.
1 Timothée 4,15.
Merci, 1 Timothée 4,15. 1 Timothée 4,15, côté progrès soit évident pour tous. Et donc, est-ce que vous avez mis en place un plan d'action? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes en train d'étudier pour devenir meilleur? Vous savez, il y a des gens qui, peut-être, pour rester sur l'idée un petit peu de David aussi, mais qui peut-être joue de la musique et j'avoue que pour ma part, je gratouille un peu ma guitare, mais je pourrais certainement avoir un niveau supérieur. Et vous avez des gens qui jouent un petit peu comme ça et puis qui rêvent lorsqu'ils voient des gens connus ou des gens qui sont finalement après sur scène ou qui font des CD, etc. et qui rêvent de faire un CD, mais qui ne se sont pas mis à prendre des cours de guitare ou à prendre des cours de chant. Et vous savez, tout le monde est appelé à chanter et à louer Dieu, ça c'est sûr, et tout le monde peut chanter sous sa douche, ou bien pour lui-même, ou dans sa voiture, mais, excusez-moi de le dire, mais tout le monde n'est certainement pas supposé enregistrer des disques, d'accord, ou passer à la radio, parce que nous n'avons pas tous les capacités ou la voix pour ça, et je souris parfois, alors, en ce moment c'est moins drôle avec l'émission la plus populaire qui passe sur TF1 en ce moment, hein. Où on cherche la meilleure voix de France, la meilleure voix francophone. Et des fois, je regarde en passant, mais avant, c'était plus amusant, il y a quelques années, parce qu'il y avait des castings comme ça. Et puis même dans l'émission, la partie que je préférais, c'était quand ils montraient ce qu'ils appelaient les casseroles, c'est-à-dire des personnes qui viennent se présenter à un concours de chant, mais quand vous les entendez, vous vous demandez s'ils n'ont pas d'amis pour leur dire « mais n'y va pas !» Et s'ils n'ont pas une famille ou quelqu'un pour leur dire « non, tu ferais mieux d'abord de travailler, et puis après... » Peut-être que tu pourras essayer de devenir quelqu'un ou d'être la nouvelle star, voilà, je l'ai cité. Et c'est cette partie-là qui m'amusait le plus, et même si parfois j'aurais plutôt dû avoir compassion pour certaines personnes. Mais, vous savez, parfois on est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on voudrait une position, on voudrait être reconnu dans quelque chose, ou on voudrait accomplir même un rêve que Dieu a mis dans notre cœur, mais sans pour autant travailler à ce que ce don, ce talent que nous avons reçu s'améliore. Et si vous ne vous mettez pas à travailler ce don, vous pouvez prier, jeûner et faire tout ce que vous voulez pendant des jours, des nuits, des mois et des semaines. Il y a des choses que Dieu a faites, il a déjà fait tout ce qu'il fallait, il vous a tout donné, mais il ne fera jamais à votre place ce que vous êtes supposé faire. Et vous êtes supposé faire des progrès. Vous êtes supposé travailler de mieux en mieux. Vous êtes supposé aller de progrès en progrès dans ce que vous avez reçu. Vous êtes supposé travailler à améliorer vos connaissances. Vous êtes supposé travailler votre don pour devenir excellent dans ce que vous faites. Et alors Dieu pourra vous utiliser. Donc je ne suis pas en train de vous gronder, je suis en train de vous montrer un aspect qui vient complémenter et équilibrer tout le reste et qui est important et que nous négligeons parfois. Et on est obligé, vous savez, si je prends le risque, entre guillemets, de vous enseigner comment passer de la résolution à la réalisation, comment faire pour que vos résolutions se réalisent, cette fois-ci, je ne peux pas me permettre de vous envoyer que des petits messages sympathiques et positifs qui ne répondront pas au problème et qui feront que dans quelques temps, vous me direz, bah, il est bien gentil, lui, avec ses séries de messages qui nous motivent et qui nous font du bien sur le moment, mais finalement, les semaines sont passées, peut-être l'année est passée, et je n'ai toujours pas réussi à ce que mes résolutions soient des réalités. Moi, je veux pour vous et pour moi que cette fois-ci ce soit la bonne. Je veux pour vous et pour moi que nos résolutions deviennent des réalisations. Donc nous avons besoin de regarder ce que les Écritures nous disent. Nous avons besoin de mettre en place des plans d'action. Nous avons besoin de travailler. De travailler. Et donc travailler à votre don, à ce que vous avez reçu. Ne restez pas médiocre, mais recherchez l'excellence. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, 23, il est dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Et finalement, si nous ne nous mettons pas au travail, nos résolutions ne sont que des paroles en l'air. Et vos paroles en l'air vous mèneront à la disette. Autrement dit, ça ne donnera rien et ça vous laissera même plutôt dans le manque et la disette, il vous manquera des choses. Mais le travail conduit à l'abondance. Donc si vous vous mettez au travail, vous allez abonder, vous aurez du résultat. Et ça c'est vrai dans bien des domaines, et c'est vrai même par rapport aux rêves que nous nourrissons dans nos cœurs. Un rêve c'est bien, mais nous ne sommes pas supposés être que des rêveurs, nous sommes supposés être des gens de vision. Des gens de vision, c'est des gens qui, oui, ont un rêve, qui les motive, qui les anime, qui est là en eux, mais qui ne sont pas que des rêveurs qui caressent ce rêve de loin, mais sans rien faire pour aller l'accomplir. Si vous êtes des hommes et des femmes de vision, ce rêve-là, eh bien non seulement vous l'avez dans votre cœur, et oui, vous le caressez, et oui, ça vous fait du bien de le mettre sous vos yeux et d'être là, mais vous n'êtes pas que des rêveurs, vous agissez. Vous mettez en place un plan d'action, vous travaillez, vous vous instruisez. Si c'est nécessaire, vous apprenez des choses, vous vous entraînez avec ce que vous avez reçu. Vous savez, pour devenir un meilleur musicien, vous avez besoin de jouer votre instrument régulièrement. Et quelle que soit l'activité, pour devenir bon, vous pouvez consulter n'importe qui, que ce soit un sportif, un musicien, et peu importe le domaine, les personnes vous diront toujours que vous devenez meilleur à force de vous exercer, à force de vous entraîner. C'est à force de travail que l'on devient bon à quelque chose. Ça ne vous tombera pas dessus un jour comme ça. Et ce n'est même pas le jour où, comme certains l'imaginent, peut-être que vous avez reçu une parole de Dieu, que ce soit par rapport à des choses spirituelles ou un ministère, pourquoi pas, mais je parle beaucoup plus en général pour votre vie personnelle. Peut-être que vous rêvez de devenir un enseignant, un instituteur, peut-être que vous rêvez de devenir médecin, ou peut-être que vous rêvez d'autre chose, mais vous savez, ce n'est pas le jour où on aura besoin de vous dans ce domaine-là qu'il faudra commencer à vous préparer. C'est maintenant que vous commencez à travailler, à vous préparer, à vous équiper, pour que lorsqu'on aura besoin de vous, vous soyez prêt, vous soyez disponible. Donc le travail va nous mener à l'abondance, alors que les paroles en l'air nous laissent dans la disette. Pour revenir à David, 1 Samuel 16, toujours verset 18. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il est dit deux choses qui peuvent paraître contradictoires, mais qui pourtant contribuaient toutes les deux à la réalisation de sa destinée et de son appel. 1 Samuel 16, 18, il est dit de David qu'il sait jouer et que c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier qui parle bien et qui est de belle figure et que l'Éternel est avec lui. Et vous savez, Dieu vous donne tout ce qu'il faut pour votre vie. Quand on lit ça, on peut se dire, mais quel est le rapport entre un joueur de harpe et un vaillant guerrier? Et Et toujours pour rester dans cette idée, vous savez, parfois, quand les personnes se présentent à ces concours de chant, vous les voyez avec leur apparence et leur style, et puis tout d'un coup, ils vous chantent quelque chose qui a l'air complètement décalé avec le style qu'ils présentent, et ça peut être assez déroutant ou amusant. Mais de la même façon, on n'imagine pas forcément un guerrier, surtout à l'époque, ils étaient quand même plutôt costauds, c'était beaucoup plus physique. Hein. Maintenant, l'armée, c'est devenu très scientifique, hein, et ils ont des appareils de pointe. À l'époque, on y allait à la main avec des armes de combat, etc. Et puis, pourtant, il était un excellent musicien et en même temps un excellent guerrier. Et même si ça a l'air de ne pas aller ensemble, les deux étaient nécessaires à la destinée de Dieu pour sa vie. Et pour chacun de nous, Dieu nous a fait uniques. Et même si quelquefois il y a des choses qui ont l'air d'être un peu conflictuelles ou qui ne vont pas ensemble dans votre vie, ben, ces choses-là vont contribuer d'une manière ou d'une autre, ou un moment ou un autre dans votre vie, à ce que Dieu a prévu pour vous. Vous savez, moi j'ai fait un petit peu d'études et j'étais dans le domaine littéraire et des langues. Et aujourd'hui, par exemple, dans mon activité, je suis dans le commerce et je fais des affaires. Ça n'a pas l'air trop d'aller forcément ensemble. Qu'est-ce qu'un littéraire fait dans les affaires ou dans le commerce? Mais vous savez, sur d'autres domaines de ma vie, je réalise combien ma formation littéraire m'est utile dans d'autres choses. Et en même temps, mon activité et mon expérience commerciale, et du coup qui me met au contact aussi du management et de différentes choses comme ça, m'est utile à d'autres égards. Et que ces deux choses-là, qui peut-être prises comme ça, peuvent paraître un petit peu contradictoires, mais en réalité, par rapport à ma vie, par rapport à ma personne, à ma destinée, à l'appel de Dieu sur moi, sont complémentaires. Parce que j'ai besoin de pouvoir utiliser, même si parfois je fais certainement quelques entorses encore, mais de pouvoir utiliser ces capacités, ces talents littéraires pour écrire des choses, même pourquoi pas pour préparer les choses et s'exprimer de manière, j'espère, plutôt correcte lorsqu'on apporte aussi un enseignement ou une parole de Dieu ou dans d'autres domaines, et aussi d'avoir développé ses talents et ses capacités dans le domaine commercial, dans le domaine du management, qui sont utiles aussi dans d'autres choses, dans la communication, dans les relations, etc. Et d'autant pour votre vie, peu importe que l'arrière-plan que vous avez ou peut-être la pensée ou l'appel de Dieu pour votre vie peut sembler loin de ce que vous faites ou de certaines aspirations que vous avez, mais ça se trouve, ça fonctionnera ensemble. La Bible déclare que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et concourir, ça veut dire que ça doit travailler ensemble. Et peut-être que, et plus largement encore, David s'est trouvé d'abord à juste garder ses brebis avant d'être roi. Ensuite, il s'est trouvé à jouer de la musique pour l'ancien roi qui n'avait plus l'onction ni la faveur de Dieu, alors qu'il devait être le prochain roi en Israël. Et ce n'était pas forcément sa place, il n'était pas en train de faire exactement ce pourquoi à terme il devait, ce dans quoi il devait se trouver à terme plutôt, et ce pourquoi il avait reçu l'onction. Et pourtant, toutes ces choses-là ont travaillé ensemble à le préparer, à le mettre en place pour qu'au moment voulu, il remporte déjà cette grande victoire qui va être significative vis-à-vis de Goliath, et plus encore qu'il devienne ce roi en Israël, le meilleur que le peuple n'ait jamais connu, et qu'il soit celui dont on dira après que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais pris isolément, ces éléments-là peuvent sembler ne pas aller avec. Qu'est-ce qu'un berger ? Pourquoi un berger ? En quoi le fait d'être un berger va être utile à être le roi? Alors bien sûr, on peut réfléchir et se dire, bah oui, parce que d'une certaine manière, s'il s'occupe bien de son troupeau, il saura bien s'occuper, même si ce n'est pas des moutons, mais il saura peut-être bien s'occuper d'un peuple. D'une certaine manière, et Dieu l'a utilisé là-dedans, Dieu lui a appris, comme je disais, à se conforter dans la capacité qu'il avait reçue, parce qu'en combattant des bêtes féroces, eh bien, il a pris de l'assurance et savait qu'il avait une force surnaturelle plus grande que lui qui était avec lui, qui allait lui permettre ensuite de faire face aux géants. Quand il va se retrouver là à jouer de la musique pour que l'ancien roi se sente mieux, mais il ne voyait certainement pas que le fait qu'il faisait que l'ancien roi se sente mieux, mais ça lui avait déjà donné accès à ce lieu d'autorité et à la présence même de celui qui était encore le roi. Donc il était déjà, si je puis dire, dans le palais royal où demain ce serait lui qui allait siéger et régner, même s'il y était pour servir. Mais tout cela, ça travaillait ensemble à ce que sa destinée et le plan de Dieu pour lui se mettent en place. Et de la même façon, quand nous avons pris des résolutions, encore une fois évidemment fondées, c'est l'idéal, sur la parole de Dieu et sa volonté pour nous, et bien il y a des choses qui peuvent d'abord sembler ne pas être en phase, mais réconfortez-vous et rappelez-vous que toutes choses travaillent ensemble pour votre bien, et que Dieu fait concourir toutes choses à votre bien, au bien de ceux qu'il aime, et que si vous cherchez à l'honorer et à progresser, à être excellent dans tout ce que vous faites, ce qui aujourd'hui peut vous paraître peut-être surprenant ou étrange, eh bien demain vous vous rendrez compte que c'était une pièce nécessaire de ce puzzle qui allait composer ce rêve, cette vision, cette aspiration que vous avez et qui vous aura permis d'avancer et d'accomplir. Et Dieu va permettre des situations dans votre vie pour servir ses buts, si vous le permettez. Et des situations agréables et positives où vous aurez l'impression d'accélérer et d'avancer dans la bonne direction. Et parfois aussi des circonstances beaucoup moins agréables et plus difficiles, puisque j'ai tout à l'heure Saül qui au départ l'aimait et voulait le garder auprès de lui parce qu'il lui procurait du bien, va être le même qui plus tard va le chasser et va lui envoyer des gens à sa suite pour le tuer. Et heureusement, ça n'a pas été comme ça, mais Dieu aussi a voulu utiliser ça. Et pendant ce temps de duel, entre guillemets, on pourrait dire, où Saül et David se poursuivaient, et plusieurs fois David aurait eu l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait, parce que pour lui, c'était encore l'homme que Dieu avait choisi avant lui, et il ne convenait pas de le faire. Mais Saül le poursuivait avec, du coup, avec détermination, une extrême détermination, évidemment malsaine, à vouloir le tuer, mais même cette expérience-là a été utile à David, et David a dû apprendre à encore rester dans la patience et dans le respect pour le temps opportun où Dieu allait lui-même se charger du sort de Saül, et où Dieu allait lui-même le positionner, lui, dans sa place de roi. Il n'est pas venu arracher quelque chose. Donc, peu importe les circonstances, tout ça peut travailler ensemble et vous aider. Et les passages que vous allez traverser vont construire aussi pour que vous puissiez aller de l'avant et réaliser ce pourquoi vous prenez des résolutions. Donc, est-ce que vous développez ce que Dieu vous a donné? Est-ce que vous êtes en train de travailler à quelque chose? Je ne parle pas juste de travailler, je pense que chacun de nous, on travaille, on a tous plein de choses à faire au quotidien, mais par rapport même à certains projets que vous avez ou certaines résolutions que vous avez prises ou que vous devriez prendre, mais est-ce que vous y travaillez vraiment? Si je prends la résolution, par exemple, c'est un de mes projets pour l'instant. C'est pas encore une résolution, c'est juste un projet, mais j'en ai déjà parlé. Et qui sait, peut-être que je ferai quelque chose pour ça, mais je sais que j'aimerais, d'une part, et je devrais faire du sport, prendre du temps à moi régulièrement pour faire du sport. Et je suis sorti déjà de la période où je me trouvais des excuses, donc c'est déjà pas mal. Mais à un moment, quelqu'un qui prend la résolution disait « Cette année, je vais faire du sport. » Mais ça suffit pas de se dire « Je vais faire du sport. » Est-ce que vraiment on y travaille? Donc la personne qui peut-être décide de faire du sport maintenant, eh bien, il faut y travailler, il faut établir un plan. Donc dire, mais quel sport que je vais faire? Je vais m'acheter l'équipement, je vais m'inscrire peut-être dans un club ou dans une salle de sport, ou s'il n'y a même pas tout ça, c'est juste pour courir, mais où est-ce que je vais courir? Quel circuit je vais faire, etc. Tout ça, déjà, on s'y prépare, on y travaille, et ensuite on y va. Et même s'il faut y aller progressivement, un beau matin, on met ses baskets et sa tenue de sport, et puis on sort, on commence à courir. Mais tout ça, est-ce que vous travaillez à vos résolutions? C'est pas juste dire cette année je vais faire ça et puis on reste comme ça et on attend que ça se fasse, sinon ça sera comme d'habitude, il se passera rien. Si vous dites cette année je vais lire davantage, votre Bible est excellente, très bien, ou même si vous dites je vais lire quelque chose, je vais m'éduquer sur un sujet. Est-ce que c'est une bonne manière de consacrer du temps? Vous savez, plutôt que de consacrer du temps à des choses qui ne bâtissent pas, mais prenez une résolution, pourquoi pas, ou si vous pouvez l'avoir prise, à développer des connaissances, mais dans quel domaine? Est-ce que je me mets en place? Est-ce que je m'inscris à des cours? Ou bien est-ce que j'achète un livre? Ou bien est-ce que... Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais est-ce qu'il y a du concret? Est-ce que vous y travaillez? Et puis, est-ce que vous faites de votre mieux dans tout ce que vous faites? Et c'est ces deux aspects-là qui ont besoin d'être associés, c'est le travail ou pas, et puis l'excellence. C'est que dès maintenant, même si je ne suis pas encore arrivé à ce que je voudrais, même si je ne suis pas encore au bout de tout ce que j'aimerais voir en place dans ma vie, mais est-ce que je fais de mon mieux dans tout ce que je fais maintenant? Et c'est si vous faites de votre mieux maintenant. Jésus a dit, si vous êtes fidèle à celui qui est fidèle dans peu de choses, on lui confiera beaucoup. Donc si vous êtes fidèle, si vous faites de votre mieux dans ce que vous faites maintenant, vous allez vous qualifier pour d'autres choses, pour ces choses plus grandes auxquelles peut-être vous aspirez et que vous désireriez voir. Et ce n'est pas le jour où vous aurez l'occasion de faire autre chose qu'il faudra commencer à vous activer. C'est dès maintenant de faire le meilleur, de faire le mieux possible ce que vous faites aujourd'hui pour que demain vous puissiez passer dans une dimension différente ou à un autre niveau. Et Proverbe 22, 29, je le cite juste en passant, mais dit que l'homme qui est habile se tient auprès des rois. Donc si vous êtes habile, c'est-à-dire si vous développez vos capacités, si vous faites les choses avec excellence, là ça va vous positionner. Et ici, auprès d'un roi, pourquoi pas? Et c'est exactement le cas de David. David avait développé sa capacité, notamment dans la musique, ça l'a amené auprès d'un roi. Si vous voulez avoir accès à certaines personnes ou à certains domaines, il vous faut aussi développer vos capacités, vos habiletés. Si vous restez là à attendre qu'on vous tende la main, eh bien vous risquez d'attendre longtemps. Préparez-vous, mettez-vous en action, mettez-vous en place pour que lorsqu'une occasion se présente, on dise « moi c'est cette personne-là que je veux ». Si quelqu'un peut-être cherche un emploi ou n'en a pas encore ou va se mettre en activité, préparez-vous, soyez excellent dans ce que vous faites. Éduquez-vous, formez-vous au maximum. N'attendez pas qu'il y ait une offre d'emploi et que vous ayez passé l'entretien pour vous dire « bon maintenant il faut que je me prépare, il faut que j'apprenne à taper au clavier pour ce poste d'assistante que j'ai tant désiré ». Commencez déjà à savoir taper au clavier et peut-être même qu'on entende que moi j'avais quelqu'un en stage, c'était une excellente personne qui tapait au clavier tellement bien et que ce soit ça qui vous fasse embaucher à la place de quelqu'un d'autre. C'est un exemple qui pourrait se décliner dans beaucoup d'autres choses, mais développez vos talents, vos capacités, développez oui ce que Dieu vous a donné, mais même dans le domaine naturel, développez vos capacités, développez, vous prenez soin aussi de votre corps, de votre être. Et soyez la meilleure version, j'aime cette expression, soyez la meilleure version de vous-même. Dès maintenant, mettez le maximum en place pour cela et vous allez voir que ça va vous aider même par rapport à vos résolutions. Parce que quelqu'un qui poursuit l'excellence, quelqu'un qui a cette mentalité d'aller au bout, de donner le meilleur, eh bien lorsqu'il prend une résolution, il ne tolérera plus de laisser ces résolutions-là tomber à terre. Il ne tolérera plus de laisser des choses l'être mortes, parce que nous avons vu que les paroles en l'air n'amènent que la disette. Et aucun d'entre nous ne veut connaître la disette. Nous sommes là pour aller vers l'abondance. Ce n'est pas juste dans une dimension de courir après un gain, mais dans l'idée que Christ soit glorifié à travers tous les domaines de notre vie. Quand nous sommes excellents, quand nous concrétisons des choses, c'est un sujet aussi de gloire pour Dieu. Donc comment faire de vos résolutions des réalités ? On a vu, prenez de fermes résolutions. On a parlé de l'onction. Opérez dans l'onction que vous avez reçue, ça c'est clair, mais aussi travaillez, soyez excellent, développez vos dons, vos capacités, apprenez, agissez, peut-être établissez un plan d'action, donnez votre meilleur, agissez avec conviction et implication. Et vous allez voir que cet esprit d'excellence vous amènera aussi à avancer et vous conduira de la résolution à la réalisation. Et je voudrais juste conclure avec le psaume 90, verset 17. Psaume 90, 17. Ça va, je ne vous ai pas assommé avec ça ? Est-ce que vous êtes des travailleurs ? Est-ce que vous allez vous mettre en action ? Psaume 90, 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et ici encore, et c'est une prière que nous pouvons faire, mais Dieu va affermir l'ouvrage, et je souligne et je surligne, de nos mains. Amen. Si on ne fait rien, il n'y a rien à affermir. Mais on peut demander à Dieu, affermis l'ouvrage de nos mains. Donc on sait que si nous sommes capables de faire quelque chose, c'est parce que nous avons son onction qui nous a été donnée. Et ça, c'est bon. Et rappelez-vous, continuez de le déclarer, de le croire et de l'appliquer à votre vie. Vous avez l'onction qui vous rend capable de faire tout ce que vous avez besoin de faire, de faire face à toute situation et de tout surmonter. Mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc, mettez-vous en action, travaillez à ce que Dieu vous a donné. Faites de votre meilleur, travaillez de mieux en mieux, allez de progrès en progrès, et puis Dieu pourra alors affermir l'ouvrage de vos mains. Vous vous mettez en action et vous vous rendez compte que lorsque vous bougez votre bras, ce que vous faites n'est plus juste le fruit et le résultat de votre mouvement. Vous vous rendez compte que vous avez fait juste un mouvement comme ça, et puis j'exagère un tout petit peu l'image, mais finalement l'arbre qui était devant vous s'est déplacé. C'est votre main qui a bougé, mais Dieu est venu affermir l'ouvrage de vos mains. Votre main doit bouger, mais la main de Dieu va prendre le relais et manifester sa puissance, sa gloire, et vous faire entrer dans l'accomplissement de ce après quoi vous soupirez. Elle déclare que si tu crois que ce que tu dis se réalise, tu le verras s'accomplir. Mais il faut que tu dises quelque chose. C'est la puissance de Dieu qui accomplit, mais c'est notre bouche, c'est nos mains, c'est notre être entier qui doit être en action. Et alors Dieu vient affermir l'ouvrage de nos mains. Vous voulez aller de la résolution à la réalisation? Mettez-vous au travail. Soyez excellent et Dieu affermira l'ouvrage de vos mains. Amen.